Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour Soif d'autre chose. Très heureux d'être parmi vous pour vous accompagner dans ce début de soirée de cette première journée de la semaine et pour vous accompagner comme chaque lundi avec moi Louis-Marie Gabriel. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo, bonsoir à tous.
Alors qu'avons-nous au programme aujourd'hui?
Alors l'Ascension est passée, donc la Pentecôte est devant nous, donc on en parlera en début d'émission. Aussi un entretien qu'on réécoute cette semaine, celui avec Clotilde Lapeyre pour SOS Chrétien d'Orient. De la musique évidemment, et en fin d'émission, une chronique sur Saint-Philippe Neri.
Et puis pour rebondir d'ailleurs sur cet entretien, c'est une rediffusion, oui. Et depuis il y a eu du nouveau. En effet, Clotilde a été acceptée et part en mission avec SOS Chrétien d'Orient au Liban, donc bravo à elle. Soif d'autre chose, c'est parti. Et pour démarrer cette soirée ensemble, pour comme chaque lundi, un peu de musique, c'est France Gall avec Résiste. On se retrouve juste après avec Louis-Marie pour ta première chronique sur la Pentecôte.
Bien dirigé, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
France Gall avec Résiste sur Radio Présence. Louis-Marie, pour ta première chronique de l'émission, on parle de la Pentecôte.
Et oui, et pas seulement, vous le verrez. Donc dimanche prochain, l'église célèbre la Pentecôte, mais j'aimerais vous amener au cœur de ce mystère qui, pour les chrétiens, n'est pas une fête parmi d'autres. La Pentecôte, c'est ce qu'on appelle parfois la naissance de l'église, mais c'est aussi, et peut-être surtout, la fête de l'Esprit-Saint, et c'est là que tout commence. Alors revenons un instant à la scène fondatrice, on est 50 jours après Pâques, Pentecosté en grec, c'est-à-dire le 50e jour, les apôtres sont rassemblés à Jérusalem, ils attendent, ils ont peur, et puis soudain, comme un vent violent, comme des langues de feu, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Des hommes qui se cachaient derrière des portes closes se retrouvent dans la rue à proclamer l'évangile dans toutes les langues du monde, la transformation est totale, radicale et foudroyante. Ce n'est plus la même chose d'être disciple après la Pentecôte, et c'est précisément ce que l'Église a voulu transmettre de génération en génération à travers le sacrement de la confirmation. Dans l'enseignement traditionnel de l'Église, la confirmation est le sacrement par lequel le baptisé reçoit de manière pleine et définitive le don de l'Esprit-Saint. C'est le complément du baptême, c'est le mot lui-même qui vient du latin « confirmare », affermir, rendre solide. Si le baptême est une naissance à la vie chrétienne, la confirmation en est une maturité. Le chrétien confirmé devient, pour reprendre une belle formule du catéchisme, capable d'assumer sa foi et de ne plus la vivre passivement, mais d'en témoigner. Les pères de l'Église, Saint Cyril de Jérusalem et Saint Ambroise de Milan, insistaient sur ce lien direct entre la Pentecôte et ce sacrement de la confirmation. Les apôtres eux-mêmes, disaient-ils, ont reçu ce sacrement ce matin-là, dans le Cénacle. Ce feu qu'ils ont reçu, c'est le même feu que l'évêque transmet en posant les mains sur le front du confirmé et en traçant le signe de croix avec le Saint Crème, cette huile consacrée qui embaume et qui fortifie. Mais qu'est-ce que l'Église apporte concrètement? C'est là qu'intervient les sept dons de l'Esprit-Saint, une liste héritée du prophète Isaïe au chapitre 11 de son livre et reprise par toute la tradition catholique. La sagesse d'abord qui permet de voir les réalités de ce monde à la lumière de Dieu, de ne pas se laisser aveugler par l'apparence des choses. L'intelligence ensuite, non pas au sens ordinaire du terme, mais la capacité de pénétrer le sens profond des vérités de la foi. Le conseil, qui éclaire nos décisions, nous aide à discerner ce qui est juste dans les moments d'hésitation. La force, don précieux entre tous, qui soutient le chrétien dans l'épreuve et lui donne le courage de ne pas renier sa foi face à l'adversité. La science, qui apprend à connaître le monde tel qu'il est, créature de Dieu, ni à adorer ni à mépriser, mais à aimer avec juste mesure. La piété, qui dispose le cœur à se tourner vers Dieu avec amour filial, à prier non par crainte, mais par désir. Et enfin, la crainte de Dieu, non pas une peur servile, mais ce qu'on appelle la crainte filiale, le respect profond de celui qui est infiniment grand et infiniment bon, la conscience de ne pas vouloir l'offenser. Ces sept dons ne sont pas des qualités humaines cultivées par l'effort, ils sont, dit saint Thomas d'Aquin, des dispositions permanentes infusées par l'esprit, qui rendent l'âme docile à ses mouvements comme les voiles d'un bateau qui, bien déployé, se laisse porter par le vent. Alors en cette semaine qui nous conduit vers la Pentecôte, peut-être est-il bon de s'arrêter un instant et se demander est-ce qu'on vit vraiment ces dons? Est-ce qu'on laisse l'esprit souffler en nous, dans nos choix, dans nos paroles, dans notre manière d'être avec les autres? La Pentecôte, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une réalité vivante, toujours actuelle. L'esprit qui a embrasé les apôtres ce matin-là n'a pas cessé de souffler sur l'Église. Il souffre encore aujourd'hui sur chacun d'entre nous.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Yeah.
Depuis des siècles, la France entretient un lien singulier avec les chrétiens d'Orient. Déjà au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, le royaume se posait en protecteur de ses communautés. Une tradition diplomatique et culturelle qui a traversé le temps et aujourd'hui encore. Cet engagement prend de nouvelles formes, porté notamment par des volontaires qui choisissent de s'impliquer sur le terrain. Et à cet effet, nous recevons justement Clotilde Lapeyre qui a fait le choix de s'engager avec SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour Clotilde.
Bonjour à tous.
Alors, première question très basique. Qu'est-ce que SOS Chrétiens d'Orient ?
Alors, pour résumer, SOS Chrétiens d'Orient, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2013 et qui est déployée dans 8 pays essentiellement. Donc, on a l'Égypte, le Liban, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, l'Arménie, l'Éthiopie et enfin le Pakistan. Concernant les missions, on ne peut pas partir, il me semble, en Jordanie ni en Éthiopie, mais il y a quand même des salariés qui sont présents toute l'année. Voilà, pour assurer cette continuité, c'est là un peu l'originalité de SOS Chrétiens d'Orient, c'est que toute l'année, il y a des volontaires qui sont présents et qui assurent une continuité, comme tu l'as très bien dit en introduction, pour garantir ce devoir que nous avons envers les chrétiens d'Orient.
Et donc ce qu'on comprend bien, c'est des volontaires qui partent justement aider donc, des populations chrétiennes qui sont forcément en danger, mais sur lesquelles il peut y avoir des complications justement.
En fait, c'est ça. L'idée, c'est de constituer des équipes. Donc, tout se fait dans des sortes de colocations où, en fait, c'est aux volontaires de créer, en fait, les missions, les projets, de monter une fois sur place et, voilà, de s'assurer qu'il y ait voilà, ce lien qui se crée avec les familles d'Orient. Par exemple, ça peut être aller à l'encontre d'une famille et faire un peu le relevé de ce qu'il y a besoin pour le quotidien. Ça peut être un four, ça peut refaire une chambre, ça peut être plus largement... aider un agriculteur dans la manœuvre, ça peut être aussi refaire une pièce dans une école. Voilà, c'est des choses extrêmement concrètes qui sont montées par les pôles qui sont présents en fait sur place. Et il y a forcément des échanges en fait, il y a énormément de volontaires qui tournent parce qu'en fait l'originalité de cette association, c'est qu'en fait les délais pour partir sont assez courts. Ce qui facilite en fait le fait que...
Un certain turnover.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va partir à partir de 28 jours en juillet et août, donc les périodes estivales qui sont assez prisées pour les étudiants. Et sinon, c'est 45 jours dans l'année. Donc c'est assez original pour une association humanitaire.
Et donc justement, quelles sont les démarches pour effectuer cette mission ?
Alors c'est assez simple. Il faut de nous-mêmes envoyer son CV au pôle volontaire. Donc on envoie son CV, on va avoir un retour... sur quelques papiers administratifs à envoyer. Et ensuite, on est convoqué à une journée de formation après avoir rempli un gros dossier bilan sur notre personnalité, nos ambitions, ce qu'on attend de la mission. On se rend à cette mission humanitaire, enfin cette mission pardon, de formation à Paris, qui se fait à Paris, dans le siège de l'association. On échange avec des anciens volontaires, on a des échanges avec les responsables de l'association et qui nous exposent un peu comment se passe une mission, quels sont les grands fondamentaux de l'Église orientale, etc. Puis après, c'est à nous de s'engager à faire 3 missions. Donc, par exemple, ça peut être faire des collectes de fonds, donner des tracts, faire comme moi aujourd'hui, vous m'avez permis de faire de parler des SOS Chrétiens d'Orient. C'est ça, exactement. Et une fois que toutes ces 3 missions ont été effectuées, on fait un compte-rendu et on peut espérer être reçu en entretien. Et puis, c'est seulement là qu'on nous affecte à une mission.
Donc on voit que c'est un engagement qui a une portée humanitaire, mais évidemment, il y a aussi tout ce plan-là qui tient de la foi et aussi du domaine spirituel, qui, je pense, est aussi une motivation. On comprend que c'est quelque chose qui est vraiment présent, et est-ce que c'est aussi quelque chose qui est vraiment une source de motivation aussi pour les volontaires, de s'engager sur le plan de la foi et que cet aspect-là soit moteur aussi de l'engagement ?
Mais tout à fait. Ce n'est pas une condition pour partir. Il faut savoir que tout le monde peut, de toute confession, peut partir. Mais voilà, il y a une forte présence spirituelle dans la mission parce qu'on est accompagné parfois par des prêtres et puis aussi essentiellement, on sert les chrétiens d'Orient. Mais oui, en fait, c'est très important du point de vue de la foi parce qu'on découvre aussi nos dimensions de l'Église. Et voilà, ce sont nos frères et sœurs... dans la foi et que c'est très important voilà, de comprendre et de percevoir les différentes manières aussi de communiquer dans l'espérance, etc. Et qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la chance de pouvoir témoigner et vivre notre foi de la même manière. Et donc c'est vraiment un aspect de la mission qui est très important, oui, bien sûr.
Ce qu'on remarque surtout dans l'Église, c'est qu'il y a une vraie richesse, même dans l'Église catholique, hein, des rites. On dit que l'Église respire des deux poumons, de l'Orient et d'Occident. Mmh. Et du coup, il y a cet aspect-là aussi d'enrichissement, je pense, mutuel, d'une part peut-être des volontaires qui viennent aussi apporter de leur temps et de leur disponibilité, mais aussi est-ce que ce qu'ils viennent puiser dans ces voyages, en quoi ça leur servira après pour leur retour dans le monde, enfin pour leur retour dans la vie banale tout simplement.
Moi, je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage. Je pense que c'est d'avoir vu et de pouvoir témoigner ensuite auprès de nos familles, de nos amis, de nos paroisses, de nos écoles, de nos groupes scouts, etc. Je pense que cette dimension de témoignage, parce que c'est vrai que c'est quand même, ils sont quand même très éloignés géographiquement de nous. Donc, en fait, on a du mal à en parler, à en percevoir voilà, les différences qu'il y a entre nous, mais ce qui nous lie aussi. Donc, je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage. Et puis après, c'est aussi... c'est une sorte de claque qu'on se prend aussi dans notre confort, notre foi assez confort en France, même si faut pas oublier que être chrétien en France aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage.
Okay. Et donc par rapport aux destinations qui sont possibles, il me semble que ceux qui partent ont le choix de la destination dans laquelle ils vont être envoyés, ou c'est décidé un peu au hasard?
Alors on n'a pas le choix, non. Alors on a les 8 pays que je vous ai cités, voilà, on peut être envoyé là-bas. Mais l'esprit de l'association, c'est quand même d'envoyer des volontaires là où il y a besoin. Donc les besoins ne sont pas toujours les mêmes en fonction du moment où on part. Et ce n'est pas non plus l'esprit. On peut donner des préférences. On peut aussi demander à ne pas partir dans certains pays. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, par exemple au Liban. Ça peut inquiéter certains. Mais non, ce n'est pas l'esprit. On ne peut pas choisir sa mission, non.
Et justement, au vu des conflits par exemple qui sévissent au Moyen-Orient et qui impactent les territoires tels que le Liban, SOS Chrétien d'Orient est quand même présent, et comment ils œuvrent justement à ça? Il y a aussi une question de protection humanitaire des populations civiles ou des choses comme ça?
Alors ça, faudrait peut-être plus demander à quelqu'un qui est là-bas. Mais alors au Liban, je sais qu'ils sont déployés à Beyrouth et à Tripoli. Mais alors essentiellement quand les conditions le permettent, ça va être c'est ce que je vous ai cité en introduction, ça change tout le temps en fait, les missions sont jamais les mêmes, c'est ça la richesse de SOS Chrétien d'Orient. Mais sinon ça va être aussi des appels de fonds, des donations, etc. En tout cas les pôles volontaires sont quand même toujours présents. Enfin, si vous suivez les comptes Instagram, etc., ils sont assez communicants là-dessus. Il y a des convois qui partent et il y a des gens qui sont là pour aider. L'aide n'est pas interrompue.
Donc, pardon, Louis-Marie, oui. Je t'en prie.
Oui, concernant du coup le côté engagement et le côté aussi un peu personnel de ce désir-là, du coup, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un aujourd'hui en France? Est-ce que Chrétien d'Orient est aussi implanté dans d'autres pays ou c'est uniquement en France?
Alors, je crois qu'en Belgique, ils ont monté une antenne, mais essentiellement en France.
Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait pousser comme ça un jeune Français à partir comme ça pour aider cette cause? Et pourquoi du coup, l'attrait pour cette cause en particulier des Chrétiens d'Orient?
Alors, je pense, moi, à titre personnel, on m'en a beaucoup parlé. Je sais que j'avais des cheftaines qui étaient partis quand j'étais jeune aider les Chrétiens d'Orient. Et c'est aussi une forme d'injustice qui nous touche aussi particulièrement, nous, avec le lien qu'on a avec le Liban, par exemple. Donc forcément, ça fait réfléchir et ces associations qui permettent en fait, de se déplacer et de pouvoir apporter une aide concrète, même si c'est primaire, voilà, oui. Qu'est-ce qui peut motiver? Bon, je pense que c'est ça, hein, cette conscience en fait, qui éveille en nous quand on grandit, en fait, et en parlant avec... d'autres amis, en rencontrant des gens. Moi, je sais que j'ai habité pendant 3 ans en Afrique, et cette situation des chrétiens d'Orient, notamment en Éthiopie, on en avait quelques échos quand même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'éveille avec l'expérience, avec les échanges qu'on peut avoir entre nous.
Et profondément, toi, concrètement, ce désir d'engagement et de volontariat, donc il est né par tes expériences personnel, mais qu'est-ce que t'attends justement de cette expérience, une évolution peut-être aussi dans ta construction en tant que femme, en tant que chrétienne?
Oui, c'est une de mes motivations, c'est vrai, mais je pense que c'est surtout comprendre comment ils vivent, comprendre comment ils s'entêtent à rester aussi chez eux, comprendre comment est-ce qu'ils vivent dans ce climat, et comment est-ce que nous, on peut apporter une aide concrète. Et je reviens sur cette dimension de témoignage, mais je pense qu'il y a un problème dans notre société aujourd'hui, particulièrement dans le milieu catho, c'est que On n'entend pas parler forcément de la situation des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas quelque chose qui se démocratise. Donc je pense que simplement pouvoir rencontrer les chrétiens d'Orient et pouvoir ensuite témoigner, par, je sais pas, dans des échanges ou par des conférences, ou j'en sais rien, peut-être que je reviendrai à être présent, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, témoigner de ce qui se passe parce qu'on on y est allé, je pense que c'est ce qui me motive le plus. Et après, en construction en tant que femme, c'est sûr... Bah déjà, cette dimension de colocation, en fait, de pouvoir vivre cette expérience ensemble et de communauté où on peut monter des projets ensemble, c'est aussi, je pense que ça aide à la construction personnelle. Et puis, pareil pour la foi, en fait, de pouvoir bloquer ces 2 mois pour ma part dans un quotidien hyper mouvementé d'étudiants, c'est aussi hyper enrichissant et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et d'en sortir grandi. Dans tous les cas, tous les anciens volontaires à qui j'ai parlé, ils ont dit que c'était une expérience qui change la vie.
Justement, de ces volontaires, c'est quoi les retours qu'on a? Alors, bien sûr, ça change la vie, mais qu'est-ce qui touche le plus?
Alors, je vais vous donner une anecdote pour ça. Alors, j'ai rencontré à ma journée de formation à Paris des anciens volontaires qui étaient partis en Irak. Et ce n'est pas la destination la plus prisée des gens qui veulent partir, mais pourtant, ils ont été hyper touchés, et notamment par un point. Alors, ils étaient partis avec de grandes ambitions, ils voulaient absolument... servir, être dans le concret. Il y avait beaucoup de projets qui étaient montés. Sauf qu'en fait, ils étaient à chaque fois arrêtés par les populations qui les invitaient tout le temps à prendre le thé, à aller déjeuner. Et en fait, ils étaient super frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à aller au bout de leur projet. Et au début, c'était compliqué. Et à la fin, ils m'ont dit, mais en fait, on a compris qu'au final, on était là pour ça. En fait, pour cette aide morale et leur garantir que nous, on pensait toujours à eux, qu'il y avait des jeunes qui étaient... à leur côté, qui se déplaçaient, qui prenaient sur leur temps de vacances. Et c'était ça, en fait, le plus essentiel pour eux, plutôt que de réparer, voilà.
Oui, le fait d'avoir une présence humaine aussi, et d'avoir aussi des gens qui sont là. Je pense que ce que les gens perçoivent, c'est que justement, si vous venez, c'est que vous êtes vraiment motivé par quelque chose qui vous dépasse un peu aussi, et vous avez vraiment ce souhait-là d'être là pour eux, et c'est peut-être ça aussi du coup qui a dû toucher ces gens-là, en fait. C'est de se dire que voilà, il y a des gens qui, enfin, de voir qu'ils sont pas invisibles, en fait.
Exactement.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui prend quand même de l'ampleur, en fait. On voit quand même qu'il y a beaucoup de communication qui est faite sur les réseaux sociaux, qu'on voit un peu que ça se développe et que les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette cause-là, qui est très importante. Et donc voilà, c'est bon aussi d'avoir ces retours-là. Et concernant du coup sur le terrain, comment est-ce que les volontaires sont accompagnés spirituellement? Comment est-ce qu'ils arrivent à du coup continuer à vivre leur foi dans un cadre qui est complètement différent de ce à quoi ils ont l'habitude habituellement?
Alors pour ça, on a eu un entretien avec le conseiller religieux de l'association pendant la journée de formation, qui nous a fait un point sur, en tant que catholique en France, comment est-ce qu'on peut remplir le devoir d'aller à la messe tous les dimanches, etc. Ouais. Parce que c'est compliqué, on ne peut pas communier à toutes les messes, etc. Mais sinon, globalement, ils essaient d'envoyer des prêtres.
D'accord, voilà, les prêtres de France qui viennent...
D'accord. Exactement, ils essaient d'en envoyer. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Ils sont quand même très occupés, donc ils essayent. Mais pour la continuité de la foi, c'est essentiellement ça.
Et est-ce que du coup, il y a aussi une continuité aussi, une ouverture aussi par rapport... du coup, on en a parlé aussi aux autres rites qui sont dans l'Église catholique, qui sont très nombreux et qui sont parfois présents aussi, notamment par exemple au Liban avec la maronite. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi qui fait partie un peu aussi de l'apprentissage un peu en amont, qui est aussi développé sur place?
Ah oui, c'est hyper important. Ils nous ont dit à la journée de formation qu'on devait se rendre à tous ces rites, qu'il fallait une présence et qu'elle était très importante et ils y étaient vraiment attachés. Donc il y a toujours des délégations dimanche. Dimanche, c'est un peu le temps libre, mais il faut qu'on se rende dans les différents rites, faut qu'on puisse les suivre pour pouvoir montrer cette présence, en fait.
Ouais. Peut-être aussi pour mieux les comprendre, pour mieux aussi voir,
exactement,
en fait, comment est-ce que leur foi est vécue. Et,
oui.
Parce qu'on sait bien que la liturgie, c'est le plus important, c'est le sommet de notre foi. Et donc, ça doit sûrement être aussi assez enrichissant de voir aussi les différentes formes et les différentes manières que les gens ont de vivre leur foi, non seulement dans une culture qui est différente, mais dans des choses qui, à la fois, qui sont très différentes, mais où il y a aussi sûrement des choses qui nous parlent aussi et quand même un ancrage aussi central, quoi.
Carrément.
Et aussi, une question qui est beaucoup plus pratique, qui est aussi personnelle, mais qui aussi doit être collective, parce que peut-être que certains de nos auditeurs aussi seraient intéressés pour partir en mission au Moyen-Orient avec SOS Chrétiens d'Orient. Le côté sécuritaire, Comment, par exemple, toi, tu es prêt de gérer et comment, en fait, l'association essaie de le gérer pour à la fois rassurer, parce qu'on ne peut pas mentir, dire on peut pas sans risque.
Oui.
Il y a quand même un risque. Comment on le gère, tout ça?
Alors oui, effectivement, il y a un risque qui est pris très au sérieux par l'association. On a eu un enseignement dessus dans la journée de formation. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Déjà, on peut pas partir sans se déclarer. On doit, dire quand est-ce qu'on est parti, avec qui, et
avec
une fois qu'on est arrivé.
Avec le ministère des Affaires étrangères, etc.
Oui, déjà, avec le chef de mission, parce que tout est quand même très encadré. Il y a un chef de mission, il y a différents pôles. Voilà, on peut pas se déplacer comme on veut. Je sais qu'on a un sac à prendre avec nous, avec l'essentiel à chaque fois qu'on se déplace aussi. On est déclaré. Il y a une assurance, en fait, l'essentiel du coût d'un volontaire, c'est l'assurance que prend l'association aussi. Donc, c'est quand même très encadré sur la sécurité. Je ne vous en parlerai pas très bien, mais...
Bien sûr. Mais comment toi, par exemple, qui va peut-être partir, tu arrives à le gérer, par exemple, pour toi personnellement, mais aussi au niveau de tes proches?
Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée. Alors, personnellement, moi, je fais confiance à l'association. Je sais que j'ai vraiment perçu que c'était cadré et qu'il n'y a eu aucun souci avec les volontaires dernièrement, que tout le monde trouve que c'est géré très au sérieux. Puis aussi, il y a aussi ce contact avec les salariés locaux qui connaissent très bien les lieux de mission et qui sont au courant de tout et qui sont capables en fait de savoir quand est-ce qu'une mission ne pourra pas se réaliser parce que c'est trop à risque. Voilà, il y a vraiment, vraiment un vrai lien avec les salariés locaux qui est vraiment très important et je pense essentiel dans la sécurité. Sinon, avec mes proches, je pense qu'ils me font confiance. Et comme je fais confiance à l'association, voilà, c'est une chaîne de confiance.
Ah, très bien. Donc, on voit du coup que ce départ-là, il est anticipé, il est proche. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a une destination qui t'intéresserait ou que tu priserais peut-être plus qu'une autre?
Alors oui, moi j'aimerais bien partir en Arménie, mais voilà, si jamais ils m'entendent, voilà. Mais non, en soi, toutes les missions sont plus riches les unes que les autres et tous les volontaires ressortent ravis. J'ai jamais entendu un avis négatif, donc bon, peu importe où je serai contente.
Pas de mauvaise surprise.
Non, c'est ça.
Et donc cette association SOS Chrétien d'Orient, depuis combien de temps elle existe et d'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce que c'est construit aujourd'hui pour prendre autant d'ampleur?
Elle a été créée en 2013. Alors au départ, c'était seulement des aides d'urgence. Donc c'était très ponctuel.
Ouais. Enfin, oui, c'était au besoin quand il fallait vraiment envoyer des gens.
Exactement, quand le Moyen-Orient était particulièrement touché. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de projets de développement économique pour permettre aux chrétiens d'Orient et aux familles d'être assez autonomes, en fait, et de se produire de la richesse eux-mêmes. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ils ont monté... Alors j'avais ramené... des petits exemples. J'ai vu qu'ils avaient réhabilité, voilà, une boulangerie par exemple. Il y a une boulangerie qui avait été réhabilitée en Syrie, les canaux d'irrigation en Irak, etc. Donc ça a pris beaucoup d'ampleur. Comme tu
ouais, le but c'est d'avoir quelque chose de durable aussi et que le passage des bénévoles soit pas juste quelque chose de temporaire,
ouais,
mais
ça.
Que derrière, en fait, le but c'est justement, enfin techniquement, il faudrait qu'il n'y ait pas besoin de volontaires. Mais oui, c'est vrai qu'en attendant... Donc voilà, du coup, ça s'est installé progressivement et c'est devenu du coup aujourd'hui quelque chose qui se fait régulièrement. Donc il y a toujours des roulements, il y a toujours des...
Tout le temps.
Tout le temps. Mm. Okay. Et du coup, c'est... Donc voilà, on voit que ça a une portée du coup à l'échelle nationale et que ça prend de l'ampleur. Est-ce que... Il n'y a pas un souci aussi de... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde du coup? Est-ce que l'association est obligée de dire non peut-être à certaines personnes ou il y a encore des... C'est encore suffisamment aéré pour que les gens puissent venir et puissent partir un peu.
Alors, je pense que ça peut être le cas l'été, parce que forcément,
oui,
les gens ont plus de temps l'été, donc c'est plus difficile de répartir les volontaires. Mais dans l'année, globalement, il y a toujours des besoins. Enfin, pour les gens qui font des années de césure, etc., enfin, c'est l'occasion de partir. Et voilà, c'est sûr qu'il y a moins de volontaires qui veulent partir l'année que l'été, mais... Mais non, je pense qu'ils sont tout le temps en train de faire des campagnes pour recruter. Donc, je pense que non, les besoins... Il y a des volontaires, mais les besoins seront toujours là.
Okay. Et du coup, pour revenir un peu aux salariés qui sont là, eux, enfin, les salariés du coup, de l'association, ils sont présents tout le temps sur les lieux de mission. Et ils y restent indéfiniment comme ça ou il y a parfois des changements enfin, ils restent déjà à plus long terme, oui, mais...
Alors, généralement, ce sont des locaux. Donc,
ah oui, d'accord, donc c'est des gens qui habitent.
Oui, mais je pense qu'il peut y avoir des changements. Mais
d'accord.
Je pense que c'est important d'avoir cette relation de confiance. Ouais. Donc, une certaine pérennité.
Ah, d'accord, donc les salariés locaux, c'est des gens du coup qui sont déjà sur le terrain et qui se... oui. Donc c'est des locaux, d'accord. Mm. C'est comme ça partout dans tous les endroits.
Normalement, oui. Peut-être que.
Oui, non, enfin oui, c'est assez intéressant de voir ça parce que enfin moi, enfin j'imaginais du coup que c'était peut-être des gens de l'association qui allaient s'installer là-bas ou qui allaient s'implanter là-bas, mais en fait, c'est.
Ouais, c'est possible. Je pense que quand on est vraiment attaché à une mission et ça a révolutionné sa vie, c'est possible qu'il y en ait qui se soient installés.
Mais du coup, ça doit être intéressant sur le plan humain d'avoir quelqu'un qui est déjà imprégné du coup de l'endroit et qui vit tout le temps là-bas en fait. Et du coup, c'est eux qui reçoivent les groupes à chaque fois.
Ce qui prépare le terrain, oui. Après, il y a comme un gros lien avec le chef de mission qui est vraiment essentiellement responsable de la mission. Et après, tous les volontaires sont dispatchés en pôle. Donc, il y a le pôle donation, il y avait le pôle organisation de la coloc, etc.
Ouais. Et le chef de mission, c'est quelqu'un qui est déjà parti, qui a déjà un peu d'expérience ou c'est quelqu'un qui est tiré comme ça un peu
Pas nécessairement. Il me semble que c'est aussi ceux qui restent les plus longtemps en mission, d'accord. Normalement, c'est ça. Mais...
Oui, d'accord. Oui, donc ils ont un rôle un peu de référent, quoi.
Et pour conclure cet entretien, Clotilde, est-ce que tu aurais typiquement un conseil, une phrase peut-être d'encouragement à des personnes qui, comme toi, souhaiteraient s'engager ?
Alors moi, personnellement, je suis encore dans ma phase de recrutement, donc je suis
hyper motivée.
Oui,
mais t'as déjà fait les étapes
Oui, je suis hyper motivée, et puis c'est un projet que je mérite depuis longtemps. Alors moi, vous avez apporté la lettre du président de SOS Chrétien d'Orient, Charles de Meyer, qui s'adressait justement à ceux qui hésitent. Et j'avais surligné quelques passages que je voudrais bien vous partager.
Avec grand plaisir.
Nous écoutons.
Alors, il disait « Ce que nous voulons que tu découvres avec nous, c'est l'envergure de la chrétienté. Une chrétienté qui ne sonne pas des mêmes sons, qui ne sent pas les mêmes odeurs, qui ne prie pas dans les mêmes langues. Mais une chrétienté qui, comme toutes les autres, souffre des mêmes fardeaux pour tenir coûte que coûte la même espérance. » Et plus tard, il disait « Les chrétiens que tu rencontreras là-bas sont comme toi, mais ils ne te ressemblent pas. Au cœur de ce paradoxe se nicheront des richesses insoupçonnées pour celui qui se donne en vérité. Et c'est cela que nous te promettons. Il n'y aura pas de phare, il n'y aura pas de quotidien factice. Il n'y aura que la vérité de tes rencontres avec tes frères chrétiens d'Orient. » Ouais, je pense que c'est le conseil, ça serait la curiosité et d'y aller. Enfin, c'est une expérience d'une vie et voilà, c'est cette dimension de témoignage. Et aussi, ce qui est important et que je voulais partager avec vous aussi, c'est qu'avec les SOS chrétiens d'Orient, ce qui est hyper intéressant, c'est que la mission se poursuit après le retour en mission. C'est-à-dire que les anciens volontaires peuvent repartir pendant les fêtes de Pâques ou de Noël dans des pays où est déployé SOS Chrétien d'Orient. Et ils peuvent encore proposer des événements avec SOSCO. Ils peuvent revenir pendant les journées de formation pour témoigner, aider les nouveaux volontaires. En fait, la mission, elle ne s'arrête jamais. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi.
Ouais, une vraie continuité. Et ce qui est beau aussi, comme ce qui a été écrit dans la lettre, c'est aussi rappeler qu'en tant que chrétien, on est une très grande famille. Ouais. Et que c'est important du coup, oui, aussi d'aller faire la connaissance de nos frères et nos sœurs qui sont parfois plus loin que nous, mais qui pourtant partagent aussi cette même foi et que ça déploie encore plus cet amour pour le Christ.
Un grand merci, Clotilde, d'être venue sur Radio Présence pour nous parler des SOS Chrétiens d'Orient. Nous te souhaitons beaucoup de courage et bonne chance aussi, en espérant que tu sois prise en mission dans la destination que tu veux, et plus particulièrement d'Arménie, c'est ce qu'on a compris.
Dans avec moi, si t'es quoi que ta vie.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Radio Présence, comme chaque lundi en direct. Et pour cette deuxième chronique, Louis-Marie, tu veux nous parler d'un saint, le saint du rire, Saint-Philippe Néri.
Exactement, il y a des saints que l'on contemple de loin avec admiration et même un léger vertige. Des saints héroïques, austères, dont la vie ressemble à une falaise, sublime mais inaccessible. Et puis, il y a Saint-Philippe Néri. Saint-Philippe Néri, c'est le saint qui vous accueille sur le pas de la porte avec un sourire espiègle, qui vous fait trébucher sur une bonne blague et qui, pendant que vous riez encore, glisse dans votre cœur quelque chose d'éternel. Il est fêté le 26 mai, et ce jour-là, si l'on veut lui rendre hommage fidèlement, il ferait peut-être mieux de rire que de pleurer. Commençons par une anecdote, parce qu'avec Philippe Néri, tout commence toujours par une anecdote. Un jeune aristocrate romain vient le trouver, gonflé d'orgueil et de lui-même. Il veut faire de grandes choses pour Dieu, mais on sent bien que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est qu'on le remarque. Philippe l'écoute avec patience, puis il lui donne comme pénitence d'aller se promener dans les rues de Rome, avec une demi-barbe, rasée d'un côté, hirsute de l'autre. Et de revenir ainsi, après avoir traversé tous les regards de toute Trastevere. Le jeune homme s'exécute, il revient rouge de honte, Philippe le regarde, satisfait, et dit simplement « Voilà, maintenant nous pouvons commencer ». C'est toute la pédagogie de Philippe Néri. L'humilité n'est pas un concept, c'est une réalité concrète, parfois franchement désopilante et ô combien salutaire. Car Philippe est convaincu d'une chose que la tradition spirituelle de l'Église enseigne avec constance, l'orgueil est la racine de tous les péchés, et rien ne la dissout plus efficacement que le ridicule librement consenti. Le saint riait, oui, mais ce rire était chirurgical. Il avait d'ailleurs une devise que ses disciples rapportent fidèlement, « Soyez bon, si vous pouvez ». Dit comme ça, on pourrait croire à la naïveté, mais dans sa bouche, c'est une invitation exigeante, être bon, vraiment bon, cela demande tout, et lui le savait mieux que personne. Sa joie n'était pas la joie du dilettante qui s'arrange avec l'évangile, c'était la joie de quelqu'un qui avait vu quelque chose, qui avait été touché au sens propre par le feu de l'Esprit-Saint. La tradition mystique de l'Église nous enseigne que la vraie joie chrétienne n'est pas un tempérament, pas un caractère heureux par nature, c'est un fruit de la vie intérieure, une conséquence de la prière, de la grâce, de l'union à Dieu. Et Philippe priait des nuits entières, on l'oublie parfois, derrière les facéties. Et justement, parlons-en de ces facéties. On raconte qu'un jour, un prédicateur réputé venait prêcher dans son église. Un homme sérieux, doctoral et estimé, Philippe lui demande la veille de bien vouloir lui réciter son sermon. L'homme s'exécute, Philippe le remercie chaleureusement et lui demande de le réciter une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Le prédicateur commence à comprendre et à la cinquième fois il dit « Père, je crois que je commence à saisir ce que vous voulez me dire. » Philippe sourit « Vous allez te prêcher très bien demain et peut-être même plus humblement qu'aujourd'hui. » L'humilité, toujours, mais enveloppée d'une tendresse, jamais d'une humiliation froide. Car voilà ce qui distingue Philippe Néri de bien des maîtres spirituels austères. Il aimait les gens profondément, joyeusement et concrètement. Il n'aimait pas l'humanité en général depuis une tour d'ivoire. Il aimait les individus avec leurs travers, leurs ridicules, leurs péchés pataux. Il s'intéressait à eux, il leur posait des questions, il riait avec eux avant de leur parler de Dieu. Et parfois, il les faisait rire tellement qu'ils n'avaient plus besoin de parler de Dieu. Ils l'avaient déjà rencontré, sans s'en rendre compte, dans ce rire partagé. Ces réunions de l'oratoire, ces soirées de prière, de musique, de lecture spirituelle qui s'organisaient pour les fidèles de Rome, avaient cette atmosphère familiale et festive. On priait, on chantait, on écoutait la vie des saints et on riait. Palestrina composait pour ces soirées, des cardinaux y venaient incognito, et des jeunes enfants désœuvrés qui traînaient dans les rues de Rome finissaient par y revenir chaque semaine, sans trop savoir pourquoi, comme on revient dans une maison où il fait bon vivre. La tradition de l'Église, en particulier l'enseignement des grands spirituels, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila et ses contemporains, rappelle que la tristesse spirituelle, c'est que les pères de l'Église appellent l'acédie, c'est l'une des maladies les plus dangereuses de l'âme. Elle engourdit, elle paralyse, elle fait croire à l'âme qu'elle est seule et abandonnée. Philippe connaissait ce danger et y opposait une résistance joyeuse et presque obstinée. « Un cœur triste ne peut pas être un cœur saint », répétait-il, et encore, la mélancolie est une des choses qui plaisent le moins à Dieu. Ce n'est pas du laxisme spirituel, c'est de la théologie vécue. La joie est un signe que quelque chose fonctionne, que la grâce circule et que l'âme est ouverte. Et une dernière anecdote pour finir, Philippe avait un don bien documenté et parfois embarrassant pour ceux qui en faisaient l'expérience, il lisait les consciences. Il savait, avant que l'on dise quoi que ce soit en confession, ce qui pesait sur l'âme du pénitent. Un jour, un pénitent arrive et décidé à taire un péché dont il avait trop honte. Philippe le regarde, lève un sourcil et dit doucement « Mon ami, vous avez oublié quelque chose. » Et l'homme blêmit « Comment pouvez-vous le savoir ?» Philippe répond avec un sourire « Parce que vous regardez vos chaussures depuis que vous êtes rentré. » La sainteté a de l'humour parce qu'elle a de la lucidité, elle voit les hommes tels qu'ils sont et elle les aime quand même. Et c'est peut-être ça, le secret de Philippe Néri. Alors à l'approche de sa fête, demandons-lui une grâce bien précise, celle de ne pas prendre notre piété trop au sérieux, de savoir rire de nous-mêmes et de regarder dans la prière cette légèreté qui n'est pas superficialité, mais confiance filiale envers un Dieu qui nous aime et qui sait peut-être lui aussi sourire.
Il est présent parmi nous.
Sûr de toi, avec ce regard qui te salit, cherche pas à tout prix à te justifier, ni à recoller les morceaux, tu n'y arriverais pas. Je me suis souvent sentie seule, mais je suis une autre déjà, j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais pas, je ne suis plus comme autrefois. Je ne suis plus la fille tendre et amoureuse de toi. Tu crois sans doute qu'un seul sourire suffit pour que tu me repères, mais je garde mon amour.
C'est déjà la fin de Sauf d'autres choses, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain à 19h comme chaque lundi pour vous accompagner dans ce début de soirée en compagnie de Louis-Marie Gabriel. Louis-Marie, t'avais quelque chose à dire, il me semble.
Oui, on souhaite aussi une très bonne route vers la Pentecôte, déjà à tous ceux qui marchent à Chartres, et surtout à tous ceux qui recevront la confirmation pendant la Pentecôte. Hein. Je sais qu'Enzo sera le reparrain d'un de nos amis qui sera confirmé, donc on confie tous ces gens-là à vos prières et on leur souhaite à tous une bonne confirmation, une bonne Pentecôte.
Bonne Pentecôte à tous, tout de suite des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.